Je crois que Bourg-en-Bresse, depuis maintenant quelques années, est en mouvement.
Des personnes qui arrivent d'Afrique, des personnes qui arrivent des Balkans. Et ce qu'on cherche, c'est l'universalité des droits.
J'ai toujours baigné dans un milieu plutôt manuel. J'aime bien le travail de la matière, ça c'est sûr.
Des hommes, des femmes d'horizons divers.
On voit autre chose, les jeunes, on les découvre autrement.
J'ai marqué.
Bah, un peu ras-le-bol de ce système qui nous oublie beaucoup, beaucoup, beaucoup.
C'est également demander moins d'élèves par classe.
Mais c'est en côtoyant justement différents maires qu'on apprend ça.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'À vous les Burgiens sur la surconsommation. Alors que la COP25 s'est ouverte ce lundi 2 décembre à Madrid, l'un des enjeux pour les pays présents dans ce rendez-vous mondial sera de limiter la production de déchets pour réduire la pollution et le gaspillage. Dans nos studios, nous allons retrouver deux membres du collectif Action non violente COP21 qui ont organisé une action anti-plastique à Bourg-en-Bresse samedi dernier. Ils viennent parler de leur rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ensuite, nous irons au Repère, une association burgienne éco-responsable qui organise des ateliers pour apprendre aux enfants notamment à réutiliser des matériaux usagés. Et enfin, Camille, bénévole au Repère, donnera ses idées cadeaux fait main pour un Noël plus éthique.
À vous, les Burgiens, sur Radio B 90 FM.
Vendredi dernier, c'était le Black Friday. Ce lundi, c'est le Cyber Monday. Des journées où les marques font des réductions alléchantes pour donner envie d'acheter à seulement un mois de Noël. En France, en 2016, deux tiers des Français avaient un vêtement qu'ils n'avaient jamais porté, selon Greenpeace. Plusieurs députés ont d'ailleurs dénoncé la surconsommation qu'entraîne ce type d'événement et veulent interdire le Black Friday. Et des associations ont organisé des mobilisations dans toute la France contre cette journée qui pousse à consommer. À Bourg-en-Bresse, le collectif Action non violente COP21, créé à l'été 2019, a décidé de s'attaquer au surplus d'emballage qui entoure les produits de nos supermarchés. Arnaud Brun et Nicolas Montanaro, bonjour.
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 Vous êtes les organisateurs de cette action qui a mobilisé 15 bénévoles samedi dernier. Alors en quoi a-t-elle consisté plus précisément et quel était son objectif ?
Alors l'objectif de cette opération, c'était vraiment de sensibiliser les consommateurs de l'hypermarché au fait qu'ils achetaient des emballages pour rien, des emballages qui étaient conçus pour être détruits dans la foulée. Et également sensibiliser le magasin, le directeur du magasin et toute son équipe pour qu'il exige auprès de ses sous-traitants, de ses fournisseurs, de réduire de façon très significative la quantité de ces déchets qui ne servent à rien et qui vont se retrouver pour les trois quarts d'entre eux incinérés, enterrés très très rapidement après le déballage ou pire, se retrouver dans les océans. Et polluer et constituer le 7e continent de plastique qu'on connaît maintenant tous.
Et quelle a été la finalité de cette action ?
Alors la finalité, c'était vraiment de récolter un maximum d'emballage lors de l'opération pour après avoir un visuel très convaincant à la fin de l'opération, à la fin des 2h30, pour que tout le monde se rende compte de la masse, du volume d'emballage qui était impliqué. Et suite à cela, on va entamer un travail avec le directeur du magasin, bon gré mal gré, on verra comment il nous reçoit, pour qu'il réduise ses emballages. Alors apparemment, en 2020, ils ont déjà un plan d'action prévu, donc on va voir si c'est vrai et on va les pousser dans cette direction.
Et comment ont réagi les Burgiens à cette action ?
Bon, on a eu un accueil plutôt quand même assez satisfaisant, a priori. Bon, on nous a pris un peu pour une collecte alimentaire à un moment, donc il a fallu expliquer un peu tout ça. Mais sinon, plutôt très positif. Beaucoup de personnes au début pensaient ne rien avoir à nous donner en sur-emballage, et après en creusant un petit peu. Donc on a vraiment eu des bénévoles très très impliqués et très très enthousiastes, mais qui l'auront voilà, dévoilé, enfin déballé, qui ont été à déballer et qui ont... Voilà, qui ont mis en évidence quand même beaucoup, beaucoup de cartons, de plastique qui ne servaient à rien. On leur a donné des contenants à la place, des cagettes, des sacs réutilisables, pour leur montrer qu'ils pouvaient, eux, avoir une autre façon de venir en magasin avec des contenants à eux. Donc voilà, vraiment un accueil plutôt positif. On a bien eu une bonne cinquantaine de caddies, de personnes, je pense, dans les 2h30 qui ont participé à l'opération.
Oui, c'est vrai qu'on a rempli 4 caddies quand même, hein, d'emballage. C'est assez impressionnant en 2h30. Puis je crois ce qu'on a apporté aussi cet après-midi, et on l'a constaté tous, c'est un petit peu de sourire dans un hypermarché, ce qui est très 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 rare, et les gens sont partis avec une note positive en partant, d'avoir fait quelque chose d'intelligent.
Et donc, est-ce que Carrefour vous a déjà donné une réponse ?
Non. Bah déjà là, on va laisser passer un petit peu quelques temps, et après on va lui envoyer un rapport, un rapport de ce qui a été fait, quelques photos surtout, hein, parce que c'est difficile à chiffrer. Donc on va chiffrer le nombre de caddies, on va lui envoyer les photos de tout ça, et après on va lui fixer un rendez-vous pour et on verra comment il nous accueille à ce moment-là. Et s'il n'y a pas de réponse, bah, on y retournera, pourquoi pas.
Donc c'était la première action de ce type à Bourg-en-Bresse. Vous attendez quoi de Carrefour dans l'idéal ?
Eh ben, qu'ils prennent vraiment des positions plus strictes sur les suremballages. Alors qu'il y a plein de solutions qui sont possibles, hein, qu'ils renforcent les rayons vrac énormément. Voilà. Donc ça commence, ça balbutie, mais faut vraiment... renforcer tout ça, le retour à la consigne, hein, la consigne en verre, pourquoi pas, hein, ça aussi des bons outils. Donc il y a plein de solutions à mettre en place rapidement, je pense, et après demander à ces fournisseurs de réduire, alors soit réduire le poids des emballages et films plastiques qui entourent tout ça, soit de les supprimer, et après ils sélectionnent les fournisseurs en fonction, et pas uniquement au prix, mais aussi à la quantité de suremballage fourni avec. Il a un gros pouvoir là-dessus, hein, de toute façon.
Est-ce que vous pensez que l'effort doit partir de ces grands supermarchés, de leurs fournisseurs, ou c'est aux citoyens en fait de se mobiliser pour leur faire comprendre qu'ils veulent une nouvelle consommation aujourd'hui ?
La grande surface, elle est vraiment à l'écoute du consommateur. Elle essaye vraiment de satisfaire ses plaisirs, donc ses désirs. Donc s'il ne sent pas de réel désir du consommateur de changer quoi que ce soit, il ne le fera pas. Donc je pense que c'est aux personnes aussi de s'exprimer. Donc Carrefour a mis en place un site internet où chacun, voilà, pour la campagne 2020, peut dire ce qu'il attend de son magasin en termes d'action pour améliorer les choses. Donc alors à Carrefour, j'ai vu aucune publicité sur le sujet. Donc c'est une campagne nationale. Est-ce que ce magasin-là le fait ? Bon, à voir. Et c'est vraiment aussi aux consommateurs de pousser le magasin pour qu'il accélère les choses.
Et l'association Plastique Europe a comptabilisé qu'en 2016 en France, un quart des emballages plastiques avaient été recyclés. C'est en dessous de la moyenne des pays de l'Union européenne, qui est de 40% de déchets recyclés. Alors en quoi cette surconsommation de plastique est une menace pour l'environnement ?
Alors déjà le plastique, il faut le fabriquer. Donc ça demande quand même énormément d'énergie, de produits chimiques, voilà, la production est très polluante et dangereuse aussi par tous les additifs qu'il y a à l'intérieur. Et il est fabriqué, il est d'origine fossile, hein, le plastique, donc c'est du pétrole à la base. Donc quand on va l'incinérer, je vous laisse imaginer, c'est pas du bois, c'est pire, hein, donc on provoque du CO2, des gaz à effet de serre, voilà. Donc c'est vrai que le plastique c'est pratique, c'est léger, c'est bon marché, mais il faut absolument... Le recyclage, c'est bien, très très peu est recyclé, mais l'idée vraiment à la base, c'est de réduire à la source la production du plastique en lui-même, qui ne sert à rien.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus du collectif Action Non Violente, COP21, quels sont vos rôles ?
Alors je vais vous parler surtout du collectif qu'on a mis en place sur Bourg-en-Bresse. C'est vrai qu'il existe un collectif à l'échelle nationale, qui regroupe une trentaine de groupes locaux répartis dans toute la France. Donc là, on a créé une antenne à Bourg-en-Bresse qui regroupe maintenant, on va dire, entre 20-30 bénévoles. Et chacun a des sensibilités un peu différentes sur ce qu'il attend du collectif. Donc l'idée, c'est vraiment de faire un mouvement de masse à l'échelle locale, à l'échelle de Bourg-en-Bresse, d'impliquer un maximum de citoyens pour forcer, pour dénoncer toutes les pollutions, les industriels, mais aussi dénoncer les politiques qui ne vont pas aller assez vite dans le sens du réchauffement climatique. Voilà, donc on va faire plusieurs types d'actions. Là, c'était notre deuxième. Il y a des actions qui peuvent être plutôt symboliques, artistiques, humoristiques. Voilà, donc beaucoup de personnes vont se reconnaître dans ce type d'action. Il va y avoir aussi des actions d'interposition, d'occupation ou de blocage. Donc notamment vendredi, on a eu deux personnes de notre collectif qui sont allées bloquer une plateforme Amazon sur Saint-Priest. Ça fait aussi partie des actions qu'on peut faire. Donc un petit mot pour eux, hein, parce qu'ils quand même, ils sont allés se faire matraquer, traîner au sol, dégazer à Saint-Priest. Donc vraiment, félicitations à eux pour avoir le courage d'avoir fait ça. On a même des lycéens dedans, donc vraiment merci à eux. D'autres actions plus constructives telles qu'on a fait pour le plastique et aussi des opérations de dénonciation, boycott. Alors ça, c'était par exemple notre première action contre les actions contre les stations Total, où on a mis entre guillemets hors service deux stations service sur Bourg-en-Bresse pour dénoncer le groupe Total au niveau des forages pétroliers et au niveau de la corruption qu'il a dans plusieurs pays. Voilà. Donc on a plein d'actions différentes qui peuvent être menées et chacun, je pense, peut s'y retrouver assez facilement. Donc on recherche, bien sûr, des bénévoles, des gens qui sont partants pour donner des idées ou pour participer à celles qu'on va proposer.
Et ces actions non violentes citoyennes, est-ce que c'est vraiment utile? Vous trouvez ça utile? À la fin, il y a un impact?
Alors, il faut faire changer un peu les mentalités au niveau des citoyens. On a besoin vraiment... Alors, l'objectif, c'est vraiment de faire, pour le climat, de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour ça, c'est la consommation, l'énergie qu'on dépense. On a absolument besoin que les citoyens s'y mettent. Donc, par de la sensibilisation, même si on attrape 5-10% de la population à chaque action, c'est déjà ça. Sachant que même si tout le monde devenait vraiment, vraiment très écolo du jour au lendemain, on ferait un quart du chemin. Les trois quarts restants, c'est vraiment les politiques qui doivent mettre en place des transports, de la sobriété de partout, arrêter l'utilisation des énergies fossiles. Donc, est-ce que c'est utile? J'espère, parce que sinon, on est vraiment mal parti quand même.
Et justement, en ce moment, c'est la COP25 donc, qui a démarré ce lundi 2 décembre à Madrid. Et donc, est-ce que vous pouvez nous résumer l'objectif de cette réunion entre 196 pays?
Oui, alors l'objectif des COP, hein, c'est une réunion internationale où les États devraient prendre des engagements, en tout cas. Je vais peut-être vous parler de l'origine du mouvement NV COP21. C'est un mouvement qui a été créé avant la COP21 parce qu'on pressentait déjà que cette COP21 n'allait pas donner ce qu'on espérait. Donc c'était vraiment un mouvement de pression pour que cette COP en 2015 aille beaucoup plus loin que ce qu'elle a allé finalement. Donc le chemin était déjà à moitié fait à Paris sur les accords de Paris. Le point positif, c'est que tous les États, enfin la majorité des États s'étaient engagés. Aujourd'hui, on sait très bien que les États-Unis se sont retirés de ces accords. Et en ce moment à Madrid, l'objectif, c'est que chacun des États qui a signé les accords de Paris aille un pas plus loin, parce qu'on sait très bien que les accords de Paris, qui se basent sur 1,5 degré de réchauffement, en fait conduisent à 3 degrés de réchauffement. Donc ce ne sera pas possible de vivre avec ces 3 degrés, on le sait bien, ce sera vraiment du court terme. Donc voilà, NV COP21 espérait beaucoup des accords de Paris. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend vraiment de ces COP? Pas grand-chose. Et c'est pour ça qu'on s'engage vraiment dans l'action citoyenne de terrain. On essaie de sensibiliser chacun. On essaie de dénoncer les systèmes industriels, les systèmes financiers qui subventionnent encore tous les systèmes basés sur les énergies fossiles. Donc il y a beaucoup de degrés d'action. Et on commence par le citoyen et on va jusqu'à dénoncer des États, des multinationales qui ont un comportement qui vont vraiment à l'envers de ce qu'on attend, de ce qu'on souhaite et de ce qui est nécessaire, parce qu'il y a vraiment urgence. La COP du Chili, enfin de Madrid, va peut-être donner quelques petites avancées supplémentaires, mais on le sait déjà, ce sera insuffisant. Les politiques nationales aujourd'hui ne varient pas. On a pris des engagements à Rio en 91, ça fait bientôt 30 ans, et on n'a pas vraiment passé de cap depuis. On n'a pas fait proposer mieux, on n'a pas fait mieux surtout, alors que la situation se dégrade très 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 rapidement. Donc Madrid et puis après la COP26 et la 27 et la 28, c'est pas ces réunions-là qui vont finalement permettre de répondre à l'urgence si elles continuent à se dérouler sur les mêmes modes, c'est-à-dire des négociations internationales, des lobbies qui viennent pour freiner finalement les avancées et des citoyens qui sont pas toujours écoutés. Et souvent, ça se finit dans la violence aussi, comme on l'a décrit à Saint-Priest le vendredi. Hein. On a des forces armées, des lacrymos, des coups de matraque, mais pas d'action en faveur du climat. Enfin, pas suffisamment en tout cas. Alors aujourd'hui, bon, on vient de voter une loi en France hein, qui est très ambitieuse par rapport aux autres pays, mais toujours pas assez. Donc c'est les autres pays aussi qui sont peut-être encore trop en retard.
Donc pour votre collectif, aujourd'hui, la seule lutte contre le climat, ça va être de la part des citoyens.
Il y a ce que disait Arnaud, hein, si tous les citoyens se mobilisent, ça ne suffira pas. Ce sera déjà un gros travail, un beau travail, mais il y a tout un système économique, un système financier qui fait qu'on est, on n'a pas forcément la main sur les actions, sur ce qui fait tourner le monde aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas les citoyens qui vont décider d'arrêter d'user le pétrole, s'ils n'ont pas le choix, ça c'est évident.
Et comment vous pensez à cette lutte pour qu'elle prenne plus d'ampleur, plus que justement les dirigeants agissent finalement ?
Eh bien, c'est plus on sera nombreux à avoir le même discours, plus on sera entendu. Et le principe d'action non violente, c'est quelque chose de porteur. On n'est pas là pour tout casser, on est là pour tout changer. C'est pas du tout la même chose.
Et donc, est-ce que vous avez des projets en tête donc pour votre collectif à Bourg-en-Bresse ?
On a beaucoup, beaucoup de projets, beaucoup d'envies. Alors, il y a des choses qui sont proposées par le national, des actions qui ont déjà été faites ailleurs, des choses assez drôles. Hein. Nettoyer les banques, hein. On prend des seaux, des serpillères et on va nettoyer ce qui n'est pas propre. C'est amusant. Il y a des actions de blocage qui sont prévues. Alors, il y a plusieurs niveaux, toujours pareil. Il y a des projets dans l'un qui vont se faire, qui consomment des terres agricoles, qui consomment des terres naturelles, sur lesquelles on aimerait bien être présent et puis montrer que c'est pas du tout le chemin à prendre. Il y en a beaucoup. Donc ce serait des occupations de sites. Après, bon, le collectif, il a un fonctionnement qui fait que pour mener une action, déjà il faut qu'on en discute, ça se fait de manière démocratique, il faut qu'on soit disponible et puis il faut qu'on jauge le risque. On n'a pas tous envie de finir en garde à vue, au tribunal, jugé et condamné, comme pas mal de collègues hein, en France qui ont été condamnés, bon, d'autres ont été relaxés. Donc il y a aussi ça qu'il faut mesurer, le niveau d'engagement de chacun n'est pas le même et beaucoup nous ont dit bon ben je veux bien agir mais pas finir en prison donc, et c'est un risque parce qu'on est dans la désobéissance civile hein, de toute façon.
Donc pour vous c'est trop risqué de faire des actions qui vous emmèneraient en prison ou c'est comme ça que ça peut faire la différence et montrer que vous en voulez vraiment ?
Alors ben, c'est ce qui fait, c'est un peu le principe de fonctionnement d'ANV au niveau national, hein. C'est au tribunal qu'on a la seule tribune d'expression. Maintenant après on comprend très bien que certains collègues bénévoles n'aient pas envie de se retrouver derrière les barreaux pour une action citoyenne.
Ben merci Nicolas Montanaro et merci Arnaud Brun. Donc je rappelle que vous êtes membre du collectif Action Non-Violente COP21 à Bourg-en-Bresse. Dans quelques instants, nous irons à la rencontre des bénévoles du Repère, un lieu éco-responsable qui tente de lutter contre la surconsommation avec le recyclage notamment.
The snow's coming down. Christmas. I'm watching it fall. Christmas. Lots of people around. Baby, please come home. The church bells in town. Oh, ringing in tone. What a happy sound. Baby, please come home. They're singing deck the hall. But it's not like Christmas at all. Cause I remember when
Vous avez écouté le trio Joubran et Gaspard Royan sur Radio B.
Radio B.
Le Repère, c'est une association à Bourg-en-Bresse qui fait des ateliers pour sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à fabriquer eux-mêmes des objets en matériaux de récupération. Nous avons assisté à l'un d'eux, organisé pour les enfants un mercredi après-midi.
On va d'abord commencer par faire la vague. D'accord ? Vous voyez là derrière au fond, loin, il y a une vague. Donc en fait, c'est le paysage enneigé. Donc en fait, on creuse et on arrondit.
Ce mercredi après-midi au Repère, les enfants font des décorations pour les fêtes. Un pingouin avec un morceau de carton et un paysage enneigé avec un petit lapin au milieu.
Voilà. Nickel Sacha. Vas-y Emma, tranquille. Super. Très bien, parfait.
Six petites filles participent à l'atelier du jour pour réaliser le tableau hivernal avec des crayons de cire et de l'encre. Et parmi elles, Amalia qui vient souvent au Repère.
T'aimes mieux fabriquer des choses ?
Oui.
Tu fabriques quoi ?
Beaucoup de choses ici, pas beaucoup de choses à laquelle autre part qu'ici.
Et ici, t'as fabriqué quoi ?
La petite sirène qui est là-bas.
Et la sirène, c'est fait avec quoi ?
Une boîte d'œufs. Du carton là pour faire le haut de la sirène. Après on les a peints et on a mis des paillettes aussi si on voulait.
Cécile Egelin est l'animatrice de l'atelier. Elle montre aux plus jeunes qu'on peut faire de beaux objets avec pas grand chose.
C'est en commençant comme ça jeune et en prenant de ses habitudes en se disant bah tiens, j'ai envie de faire un cadeau, qu'est-ce que je pourrais faire plutôt que qu'est-ce que je vais acheter. Et en faisant comme ça, bah du coup, on cogite, on fait travailler l'imaginaire et on se dit ah mais oui, à la maison, j'ai de la ficelle, des perles, et si je faisais un mobile et pourquoi pas, et il me reste de l'argile. Enfin voilà, en tout cas, le but c'est de de leur apprendre qu'avec tout ce qu'ils vont trouver, même à la maison, même sans avoir besoin d'acheter du matériel de loisirs créatifs, on peut vraiment faire des choses. Puis surtout, comme ça se développe beaucoup, on trouve beaucoup de livres de bricolage là-dessus, sur la récup, ce qu'on a à la maison. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus facile maintenant. Et si on apprend comme ça avec les enfants, les adultes vont être curieux aussi. Et un peu, tout le monde va s'y mettre. Comme les décos de Noël, par exemple, il y a vraiment, vraiment... C'est incroyable le nombre de choses qui existent sans qu'on ait forcément besoin d'aller acheter les boules toutes faites qui viennent de loin. Et en plus, on est d'autant plus content parce que c'est notre sapin, en fait, ou c'est notre déco, ou ce sera vraiment ce que nous, on aura fait. Donc, on y aura mis plus de cœur, en fait. Et donc, c'est tout l'intérêt du cadeau aussi.
Et vous, pour Noël, personnellement, est-ce que vous faites plutôt des objets par vous-même, ou est-ce que vous achetez, ou est-ce que vous faites un peu des deux ?
Alors moi, je fais un peu des deux, parce que j'avoue que j'aime bien quand même cette période et que je trouve que c'est sympa. Mais par exemple, là, cette année, j'ai fait le calendrier de l'Avent. Et donc, j'ai acheté quelque chose de Perrin que j'ai décoré. Et donc, du coup, c'est un calendrier de l'Avent que je vais pouvoir garder et que mes enfants vont pouvoir garder tout au long des années, en fait. En fait, il faut arriver à trouver le bon juste milieu entre nos habitudes et les choses qu'on a envie de changer. Parce que si on veut tout changer notre déco, et si on se dit, ben, j'ai un grand sapin, je vais tout faire, il faut aussi trouver le temps. Et ça, parfois, c'est ben, quand on fait nous-mêmes, il faut plus de temps. Donc, ça veut dire que c'est mieux de se poser, de dire, ben, cette année, je vais faire ça, et puis l'année prochaine, je ferai ça. Enfin, voilà. Et petit à petit, comme ça, on va changer nos habitudes. Et je pense que si chacun s'y met, forcément, après, ça commence déjà, en fait, vu que dans les bouquins, on fait de plus en plus de créations en récup aussi. Et c'est comme ça qu'on va changer nos habitudes et évoluer.
Au fond de la salle, quelques mamans attentives sont restées. Annabelle a emmené sa fille de 6 ans à l'atelier.
Elle adore. Elle adore, et puis on utilise des choses qu'on récupère, qu'on jette pas, qui servent à autre chose. Et elle aime bien récupérer aussi plein de choses qu'elle garde pour faire ses dessins, donc j'aime bien.
Ah. Vous trouvez que ces ateliers, c'est important pour donner en quelque sorte une conscience écologique aux enfants ?
Oui. Et on fait le tri, on mange des produits de la ferme, on va les chercher et du coup on récupère des trucs pour faire des activités. Voilà.
Noémie a aussi accompagné sa fille. Pour elle, faire les objets soi-même pour Noël n'est pas à l'ordre du jour.
Je ne sais pas faire grand-chose de mes doigts, mais proposé par quelqu'un qui sait faire quelque chose de joli, oui, pourquoi pas.
Est-ce que vous, quand c'est Noël, vous essayez de mieux consommer ou vous faites plaisir ?
Je pense que tout ça change doucement. Y compris pour moi, on a été comme beaucoup de parents dans l'achat de biens neufs pour les enfants, et on évolue tout doucement pour nous, pour eux. Voilà, c'est une question, je pense, d'adaptation et puis aussi d'offres de ce qu'on trouve qui va convenir. À leurs besoins, aux nôtres aussi. Essayez d'abord de réduire un peu les listes, de trouver des choses qui vont vraiment être utiles, trouver aussi à donner du sens aux jeux, aux jouets, et puis regarder un peu d'où ça vient, regarder un petit peu comment ça a été fabriqué, où ça a été fabriqué. Voilà, c'est un peu l'idée.
L'objectif du Repère, l'association qui organise les ateliers, c'est de donner envie de faire soi-même. Dans le bar associatif, on trouve des tableaux faits avec des bouchons de liège recyclés ou des capsules de bouteilles. Marie-Laure Sauchet est la coordinatrice du Repère. Elle veut développer cette activité.
On encourage le faire par soi-même et on apprend aux gens. Donc ça va de 2 ans à un âge très avancé. Voilà. On apprend aux gens à faire par eux-mêmes des petits objets de déco, par exemple, à partir de matériaux de récupération, des produits ménagers, des cosmétiques à partir de produits naturels. On a eu fait samedi dernier un gros atelier aussi déco de Noël, pareil, qu'à partir de récup. Donc on a une cave bien remplie avec tout ce qu'on nous donne, tout ce qu'on peut récupérer à différents endroits. C'est l'idée de profiter des ateliers pour apprendre à faire des choses et les faire par soi-même. Et puis on a aussi nos marchés de Noël, donc surtout décembre là, où ce qui va se passer, c'est qu'on va vendre les créations du Repère. Donc on dit, plutôt que d'acheter quelque chose de neuf ou qui a nécessité des ressources pour être créé, autant acheter une création récup. Donc on va profiter de ces temps pour aussi proposer à des petits producteurs, soit des gens qui veulent se faire connaître, soit des créateurs qui font ça pour financer un projet solidaire, par exemple. soit des personnes qui sont encore très peu sûres d'elles et de ce qu'elles font et qui nous disent non mais je peux pas mettre ça en vente alors qu'on est persuadé du contraire, voilà, de faire une sorte de vitrine pour toutes ces personnes et encourager du coup un achat responsable.
Camille est aussi bénévole au Repère et quand elle a le temps pour Noël, elle offre des cadeaux faits main à ses proches. Elle nous donne ses conseils pour des cadeaux simples à faire soi-même. Bonjour Camille.
Bonjour.
Vous êtes bénévole au Repère et l'an dernier, vous avez fait un Noël zéro déchet. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des conseils sur des cadeaux zéro déchet qu'on pourrait faire assez facilement?
Oui, alors la première réflexion peut-être à avoir quand on se lance dans un Noël zéro déchet, c'est se poser la question de qu'est-ce qu'on met comme valeur derrière un cadeau. Est-ce que c'est une valeur financière, combien je vais mettre, ou est-ce que c'est une valeur affective? Moi, j'aime bien parler de valeur affective. Pour moi, le Noël zéro déchet, et dans une démarche aussi minimaliste, c'est d'essayer de repenser un petit peu qu'est-ce qu'on souhaite offrir à la personne. Est-ce que c'est quelque chose de très personnalisé? On a pensé à la personne, qu'est-ce qu'elle aime, etc. Ou est-ce que c'est simplement de dire je vais cliquer sur un site internet et puis commander en deux secondes quelque chose voilà, qui probablement lui plaira ou pas. Pour Noël, j'aime bien faire des choses personnalisées pour les gens, pour ma famille, pour mes amis. En idée cadeau, donc l'année dernière, je m'étais lancé le défi de faire un Noël, en tout cas au niveau des cadeaux, 100% zéro déchet. Et donc, j'avais offert aux membres de ma famille des kits, on va dire, de cosmétiques principalement, zéro déchet, et en partie fait maison. Donc, pour les hommes et pour les femmes, c'était par exemple des déodorants, des crèmes pour le corps. J'avais mis aussi des petits savons artisanaux saponifiés à froid. C'est des choses qui se font très facilement. Les cosmétiques maison, il y a plein de recettes, il y a des choses hyper faciles à faire. Par exemple, pour faire un baume pour le corps, vous pouvez faire ce qu'on appelle une chantilly de karité. En fait, vous prenez simplement du beurre de karité, vous rajoutez 40% d'huile végétale. Ça peut être tout simplement de l'huile de tournesol que vous avez dans votre cuisine, parce que c'est un très bon élément nourrissant pour la peau, l'huile de tournesol. Et puis vous mélangez ça avec un batteur électrique, comme une chantilly, et ça vous fait un super baume pour le corps, pas cher, et au moins vous savez ce qu'il y a dedans, il n'y a pas de perturbateur endocrinien ou je sais pas trop quoi. Autre idée de cadeau, bah ça peut être des choses en dehors des cosmétiques, ça peut être des petits objets qu'on fait soi-même. Le bois de palette, par exemple, c'est hyper à la mode, on peut faire plein d'objets décoratifs avec. Dans le cadre du Repère, on a déjà fait plusieurs ateliers et plusieurs créations, on peut faire des planches à découper en bois de palette. On peut faire des petits cadres décoratifs. Vous prenez simplement 4 bouts de bois de palette, vous faites un cadre avec et puis vous pouvez mettre par exemple en fond un joli tissu, ce qui vous fait une petite étagère sympathique pour poser par exemple une petite plante verte ou un petit objet décoratif.
Et donc ces cadeaux, vous mettez longtemps à les faire, c'est du temps quand même?
Oui, c'est du temps, mais c'est un peu ce que je disais au début, c'est du temps, mais moi j'aime bien prendre ce temps justement. Je trouve que c'est plus important de passer une ou deux heures à confectionner un cadeau pour une personne plutôt que de dépenser 100 € pour une personne. Enfin voilà, pour moi la valeur affective est plus importante que la valeur financière, donc je préfère prendre du temps et faire des cadeaux personnalisés que j'ai pris le temps de faire moi-même plutôt que d'acheter des choses dans le commerce, etc., qui sont pour le coup totalement dépersonnalisé et voilà.
Et donc si par exemple on n'a vraiment pas le temps, est-ce que vous avez des conseils cadeaux pour être un peu plus respectueux de l'environnement?
Bah, je trouve que le meilleur moyen de ne pas générer de déchets, c'est de ne pas en faire justement. Tout ce qui est cadeaux immatériels, c'est des bonnes options. Vous pouvez, une personne que vous appréciez, vous pouvez lui payer une place pour un spectacle. Vous pouvez l'emmener au restaurant par exemple. Ça peut être aussi l'occasion de discuter de choses et d'autres, voilà, si vous n'avez pas le temps aussi. J'aime bien les cadeaux immatériels parce que c'est aussi le moyen, voilà, plutôt que de prendre le temps en amont à penser à la personne et à lui faire quelque chose de personnalisé, c'est aussi l'occasion de partager un moment singulier avec cette personne.
Ces cadeaux, si on a pris un cadeau matériel, comment on fait pour l'emballer? Vous avez des conseils aussi?
Le pire objet pour emballer les cadeaux de Noël, c'est en fait le papier cadeau traditionnel, c'est-à-dire qui est bourré de plastique. Même les papiers cadeaux qui vous semblent être en papier, dès qu'ils sont brillants, etc., en fait, ça contient énormément de plastique et contrairement à ce qu'on croit, ça se recycle très mal. Donc, ben, il y a des alternatives qui existent. Si vous souhaitez rester dans l'idée du papier, ben, il y a le papier craft, qui est un papier marron qui se recycle très bien. Ou alors, alors vous avez d'autres alternatives sur le long terme. Par exemple, vous pouvez utiliser la technique du furoshiki, qui est une technique pour faire des emballages en tissu japonaise. Vous pouvez faire ça très simplement et à moindre coût, par exemple en cherchant des vieux foulards. Moi, j'achète régulièrement des foulards en fait chez Emmaüs, et ça me permet d'emballer mes cadeaux à moindre frais. Hein, un foulard chez Emmaüs, c'est environ 50 centimes. Vous pouvez le garder, vous pouvez l'offrir à la personne, ça vous permet d'emballer. Après, il y a plein d'autres astuces pour emballer. Vous pouvez emballer avec du papier journal, ça peut faire très joli. Vous pouvez même vous amuser à le colorier ensuite, enfin voilà, ou le personnaliser. Vous pouvez faire des ballotins en tissu. Enfin, il y a plein d'idées pour emballer ces cadeaux autrement qu'avec le papier pailleté qui est assez désastreux en termes écologiques et qui se recycle pas du coup.
Merci beaucoup Camille.
Merci.
Radio B. Radio B.
Et c'est la fin de cette émission d'À vous les Burgiens. Merci de nous avoir écoutés. À 20h, vous retrouvez Captain en direct de son émission musicale Ping Pong. Bonne soirée sur Radio B.
Je crois que Bourg-en-Bresse, depuis maintenant quelques années, est en mouvement.
Des personnes qui arrivent d'Afrique, des personnes qui arrivent des Balkans. Et ce qu'on cherche, c'est l'universalité des droits.
J'ai toujours baigné dans un milieu plutôt manuel. J'aime bien le travail de la matière, ça c'est sûr.
Des hommes, des femmes d'horizons divers.
On voit autre chose, les jeunes, on les découvre autrement.
C'est marqué.
Bah, un peu ras-le-bol de ce système qui nous oublie beaucoup, beaucoup, beaucoup.
C'est également demander moins d'élèves par classe.
Mais c'est en côtoyant justement différents maires qu'on apprend ça.